RCF.
Bonsoir à toutes et à tous, lundi 18h10, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine et vous accompagner du lundi au vendredi. Ce soir, un beau programme, encore une fois, dans quelques instants avec Claude Ruiz, on s'intéressera aux États européens à qui il conseille de négocier, on en saura plus dans quelques secondes. Nous serons également avec Philippe Claude, le maire d'Audrecy, dans les Ardennes, une commune à moins d'une dizaine de kilomètres de Charleville-Mézières. Ça sera l'occasion d'aller découvrir ce territoire. À 18h30, il y aura l'information régionale. À l'intérieur du journal, on reviendra sur le manuscrit d'Amélie Maillard qui a été offert au département des Ardennes. On reviendra également sur l'Estac qui se donne de l'air en Ligue 2 grâce à une victoire 2-1. C'était ce week-end face aux Girondins de Bordeaux. Et puisque l'on parle de sport, on a un invité de prestige dans nos studios. Vous connaissez sa voix, il a animé la radio, il a présenté les journaux pendant des années. C'est Arnaud Valadon qui est ici. Bonjour Arnaud.
Bonjour Alexis, bonjour à tous. J'ai l'impression de revenir presque tous les trimestres maintenant, vous faire un petit coucou.
C'est ça, vous faites un petit passage, un petit bilan annuel. Alors à chaque fois que vous venez, vous avez des nouveaux titres, des nouvelles médailles que vous moissonnez avec l'équipe de France en les suivant dans vos aventures à RMC Sport, BFM TV. Est-ce qu'il y a, Arnaud, des nouveautés du côté français ?
Du nouveau... Je sais plus la dernière fois que je suis venu, j'avoue que je suis un peu perdu.
C'était après le titre de handball.
Donc est-ce que c'était en décembre ?
C'était au mois de décembre, oui.
Ah, donc c'est trop tard pour souhaiter les vœux. Ah, je suis désolé. Non, bah toujours, là c'est un petit peu calme en ce moment. Le Stade de Reims, hier, qui a perdu 3-2 contre Toulouse, c'était ça un petit peu l'actualité. Et puis sinon, on prépare les Jeux Olympiques, parce que c'est évidemment le grand événement sportif français, et même aussi dans la Marne, hein. Et les Ardennes, et l'Aube, et la Haute-Marne, puisque ce sont des terres de jeu, avec beaucoup d'équipements qui seront mis à disposition des athlètes pour se préparer.
C'est l'occasion de teaser les invités de demain dans le magazine régional, puisque Raphaël Blanchard, adjoint délégué au sport de la ville de Reims, mais également vice-président en charge des sports du département de la Marne, sera l'invité de Jean-Pierre Benoît. Vous l'entendrez dès 7h sur RCF Reims-Ardennes ce mardi matin. On continue à balayer le programme de la soirée avec le passé religieux de Cézanne qui vous sera proposé. C'est une très belle découverte dans le sud-ouest marnais. Une rencontre avec la communauté du Chemin Neuf, Sœur Aude et Thierry Mestralet qui vous inviteront à rejoindre le groupe de prière du mardi soir à 20h45. Et puis nous serons également avec le député centriste de la Marne, Charles de Courson, qui reviendra sur les dernières actualités et notamment les mouvements sociaux des agriculteurs ces derniers jours, ces dernières semaines. Je ne l'ai pas encore salué, mais on ne l'oublie pas parce qu'elle nous présentera la météo à l'intérieur du journal régional. Mélissa Tavares, notre stagiaire à la rédaction plus sur le pôle communication, est avec nous. Mélissa, bonjour.
Bonjour.
Demain, est-ce que le soleil va revenir ?
Malheureusement, non.
Bon, on va patienter pour en savoir un petit peu plus à l'intérieur du journal. Mais Arnaud était venu pour avoir du beau temps et du soleil. C'est un coup raté. On commence par regarder sur le monde ce lundi soir avec Claude Ruiz qui est en studio. Bonjour. On regarde sur le monde avec Claude Ruiz. Bonjour.
Bonjour.
Et le thème du jour, c'est négocier. Claude, l'heure est aux négociations pour vous.
Oui, c'est quelque chose qui me paraît de plus en plus important.
On va parler de négocier dans les relations internationales qui sont instables, en particulier en Europe, à quelques mois des élections européennes. Les relations entre États sont tendues et vous proposez donc des négociations de façon urgente. Vous allez peut-être soumettre des idées à nos chefs d'État, à nos ministres, pourquoi pas, Claude Ruiz. Pourquoi négocier de façon urgente ?
Je crois qu'on peut essayer de leur dire qu'il faut négocier. Après, les modalités, c'est peut-être souvent un peu plus complexe. Les institutions imposent souvent des canaux particuliers. Mais les négociations sont utiles, je crois, pour réduire toutes les tensions qui se font jour, vous voyez, à l'intérieur même de l'Europe, pas seulement dans la discussion entre les États à propos de l'Europe, mais simplement parce qu'on a des frontières communes et que de temps en temps, il y a des problèmes qui ne sont pas solutionnés de la même façon d'un côté et de l'autre. Donc, je crois que les tensions se font jour à différents niveaux. Récemment, dans le cadre justement d'un bouillonnement, on va dire, agricole, on a parlé du traité entre l'Union européenne et le Mercosur. C'est pas un traité spécifiquement pour l'agriculture, mais entre l'UE et le Mercosur, c'est-à-dire des pays du sud de l'Amérique latine, essentiellement des grands pays producteurs sur le plan alimentaire, hein, c'est-à-dire il y a surtout le Brésil et l'Argentine, mais on pourrait y rajouter l'Uruguay, le Paraguay, le Chili, donc on retrouverait ces éléments-là. Et en Europe, on a vu monter tout un ensemble en disant il ne faut pas traiter avec le Mercosur, c'est impossible. On a même menacé de veto si on allait discuter avec ses clients du Mercosur, dont plusieurs pays qui ont menacé d'utiliser ce veto, comme la France ou l'Autriche. Donc, c'est un vieil accord qu'on a lancé sur la table, je ne vous dis pas, depuis 1999. Vous voyez, les accords, on discute. C'est pour ça qu'il faut discuter longtemps. Là, on discute.
La discussion est très longue. C'est plus qu'un repas de famille, la Claude Ruiz.
Exactement. Mais il faut rester en famille quand même, et pas se jeter les assiettes à la figure. Alors, c'est toujours en discussion. Il y a un volet commercial et un volet, j'allais dire, politique, militaire, culturel, d'éducation. C'est-à-dire que ça traite toutes les relations entre ces différents ensembles socio-économiques. Et à noter un accord de principe en 2019 à propos donc de l'environnement. Donc là, je crois que les commissions recherchent des solutions. Et bien entendu, je crois qu'à la fois pour l'Europe, le Conseil européen, le Parlement européen montrent des difficultés, en fin de compte, à fédérer, si vous voulez. Donc il y a une certaine incapacité à pouvoir justement discuter et négocier.
Claude Ruiz, quelles peuvent être les conséquences en cas d'échec? Est-ce qu'elles peuvent être négatives, surtout ces conséquences?
Bien entendu, les conséquences positives, c'est relativement facile à trouver, vous avez raison. Bon, ça veut dire une baisse de la concurrence alimentaire en Europe. Mais bien entendu, ça veut dire quoi? Baisse de la concurrence alimentaire parce que ces pays ont des produits qui coûtent beaucoup moins cher parce qu'ils n'ont pas les mêmes conditions de production qu'en Europe. Mais je crois que à ce moment-là, le report des productions, si vous voulez, du Mercosur se fera sur d'autres marchés mondiaux. C'est-à-dire la concurrence, ils ne la feront pas en Europe, mais ils nous la feront sur d'autres espaces qui seront aussi importants. Et puis peut-être pour pas seulement les produits alimentaires, mais les produits industriels. Et là, en réalité, au lieu d'acheter en Europe, ils risquent, ces pays du Sud, là, d'acheter aux États-Unis ou en Chine, avec des conséquences sans doute à un autre niveau. Et on pourrait citer même sur le plan culturel. Vous voyez, l'année prochaine, il y a une préparation de l'année de la France au Brésil. Est-ce que ça va pouvoir se mettre en place? Parce que, vous savez, ces années dans les pays, ça veut dire que toute l'année, il y a des manifestations culturelles de différents niveaux qui permettent, en fin de compte, de pouvoir parler du pays. Donc là, vous voyez, ça risque d'être compromis. Donc je crois qu'il y a surtout une faiblesse de l'Europe à signer des accords, peut-être parce que le système européen est complexe, et vous le savez que travailler à 27 ou essayer de faire une synthèse à 27, c'est toujours difficile et complexe.
Mais il semble qu'au sein même de l'Europe, Claude Ruiz, des tensions soient fortes. Et d'ailleurs, même la France n'est pas épargnée par cela. Des tensions qui peuvent être provoquées par de simples remarques, comme le montre la levée de boucliers en Espagne après la petite phrase de l'ancienne ministre Ségolène Royal sur les tomates espagnoles. Alors peut-être qu'on peut reposer le contexte. Qu'est-ce qu'elle nous a dit, Ségolène Royal?
Ségolène Royal a dit les tomates espagnoles sont immangeables. Alors quand vous dites ça...
Alors là, les Espagnols, levée de bouclier, comme vous dites.
Bouclier, parce que je pense que comme en France, il y en a des immangeables et des mangeables.
Tout dépend comment elles sont cultivées.
Exactement.
Et des intempéries.
Exactement. Donc là, je crois qu'il y a eu un soulèvement politique. Et vous le voyez, je dirais, dans le cadre médiatique, ça peut déclencher des grands mouvements qu'on n'arrive pas à arrêter. La preuve, là, le Premier ministre espagnol est monté au créneau. Il a tout de suite fait remarquer qu'il y a des camions espagnols qui traversent la France qui sont attaqués parce qu'ils transportent des produits agricoles. Donc, vous le voyez, tout de suite, on le déplace dans d'autres cadres. Il y a des associations espagnoles qui ont décidé de mettre ça en justice. Donc, vous voyez, tout de suite, pour un petit mot qui est sorti de son contexte, dans lequel on ne peut pas véritablement discuter. Donc je pense que là, c'est d'autant plus facile qu'on est dans un cadre européen, que la politique agricole commune est quelque chose, c'est la première, je vous rappelle, politique commune qui a été mise en place en Europe, donc on devrait pouvoir quand même se parler. Et je crois qu'il faut éviter un petit peu tout ce qui est bisbille dans ce cadre-là. Il faut continuer à négocier.
J'allais dire, Claude Ruiz, à qui profite le crime? Ces excès de vocabulaire, ils profitent à qui?
Je crois qu'il y a une absence de raison dans l'expression médiatique, ou alors c'est peut-être justement à vous, journalistes, de faire la leçon aux politiques quand ils vous parlent, de montrer qu'il faut parler avec un vocabulaire un petit peu posé. tout ce qui ressort et qui est un peu particulier, vite instrumentalisé, je dirais, par les opposants, quels qu'ils soient. Et là, dans le cadre dont
c'est aussi l'air du temps qui veut ça, d'ailleurs, avec votre communication, voire de surcommunication.
Exactement, la surcommunication, et en particulier en Europe, on n'y arrivera pas à 27. Hein. Les opposants en Europe sont toujours, je dirais, un petit peu à l'affût. Et je crois qu'il faut essayer de, à l'approche en particulier des élections, comme on le disait tout à l'heure, la crise est sensible dans certains pays, en France, en Allemagne, on l'a vu, hein, en Pologne, en Italie. Bien sûr, l'Europe montre souvent son incapacité d'inclusion. Ça a été souvent le cas de l'agriculture, mais je vous l'ai dit parce que c'est le premier secteur dans lequel on a été vraiment le plus long. Donc je crois qu'il faut faire attention à ce que l'on dit, il faut chercher les solutions et je crois, moi je dirais le débat, toujours le débat, parce que sinon on s'en sortira pas.
Merci Claude Ruiz de nous avoir éclairé sur pourquoi négocier au sein même de l'Europe les élections européennes. On peut aussi donner la date à nos auditeurs, c'est le dimanche 9 juin, 81 eurodéputés français qui nous représenteront au Parlement européen à élire. C'est un rendez-vous que l'on donne et on aura l'occasion d'en reparler certainement, que ce soit avec vous Claude Ruiz ou avec Jean-François Boulanger avec qui vous êtes en alternance dans Regards sur le Monde. À très bientôt.
Au revoir.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Tu vois Arnaud, c'est formidable, les années passent et les chroniqueurs restent et ils ont toujours des sujets intéressants. Là on parlait de l'Europe il y a quelques secondes avec Claude Ruiz, ça te rend pas nostalgique, tu préfères parler sport à RMC quand même?
Oh, j'aimais beaucoup faire les sujets locaux, l'écho du Rotellois dont tu as hérité ensuite Alexis, les émissions avec Claude Ruiz, l'actualité aussi universitaire avec Jean-François Boulanger, c'était ça qui était formidable à RCF et qui l'est toujours, c'est ce côté touche-à-tout, tous les sujets, que ça aille du local, évidemment au religieux, puisque c'est une part importante et l'ADN de la radio, couvrir tous les temps forts du diocèse, que ce soit évidemment la Semaine Sainte ou même les différents pèlerinages. Donc oui, un petit peu de nostalgie, parce que j'ai évidemment pris énormément de plaisir durant les 5 ans, 2012-2017, ça commence à remonter, à couvrir tous ces aspects de l'actualité, et ce fut d'ailleurs très formateur, et je n'oublie pas, pour ça que j'aime bien vous rendre visite de temps en temps, et je vous écoute, parfois en DAB+, quand je suis dans le coin ou même avec l'application RCF, avec les smartphones maintenant.
Et le plaisir est partagé parce que la joie se partage. Et Arnaud, tu nous parlais des territoires. Jean-Pierre Benoît nous emmène à Audrecy, désormais dans les Ardennes, retrouver son maire, Philippe Claude.
Philippe Claude, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est l'occasion pour nous de découvrir la commune d'Audrecy dans le département des Ardennes. Est-ce que vous pouvez nous présenter de façon très générale la commune, la situation géographique, combien d'habitants, et puis si vous êtes maire depuis un moment ou pas?
Donc, nous, la situation donc de la commune d'Audrecy se trouve donc à 7 km de Charleville, est située donc à l'ombre, pas très loin de l'autoroute à 34, et le nombre d'habitants, nous sommes grosso modo 350 habitants, et je suis maire donc depuis 2014.
Alors quelles ont été vos motivations? Vous avez toujours été attiré, on vous a demandé, vous connaissez beaucoup de monde, donc on a dit bon, voilà, ça serait un bon maire pour Audrecy. C'était peut-être, comme on dit aujourd'hui, dans votre ADN.
Bah, c'était, je pense, un peu dans mon ADN. J'ai toujours fait partie d'associations. C'est quand même mon cinquième mandat en tant que conseiller. Et donc, le deuxième en tant que maire. Et ça s'est passé, je veux pas dire qu'on m'a poussé, parce que de toute manière, j'étais prédisposé à être maire. Mais c'est suite à, disons, à des soucis qu'il y avait avec l'autre maire. Et puis
vous avez pris le flambeau.
Je me suis présenté contre lui pour la petite anecdote. L'élection d'avant, il avait fait tout pour que je ne passe pas en tant que conseiller. Je suis passé quand même. Et puis le coup d'après, c'est moi qui suis passé. Mais là, je suis passé pour être maire.
Alors, comment peut-on, si on vous demande comme ça, Audrecy, les habitants d'aujourd'hui, vous dites que c'est proche de Charleville-Mézières, est-ce qu'il y a des gens qui font construire? Quel est le type d'habitants? Avec le Covid, il y a des gens qui aiment mieux être à la campagne. Est-ce que vous avez ressenti tout ça? Quels sont les habitants d'Audrecy? Quel est le profil?
Disons qu'avant, c'était une cité où il y avait pas mal d'agriculteurs. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Et c'est plus maintenant une cité dortoir. C'est les gens qui travaillent sur Charleville, qui sont tout proches. Et des gens qui sont, il faut le dire, aisés au niveau finance, parce que les prix grimpent fortement au niveau des maisons quoi, sur Haut-de-Russie.
Sur Haut-de-Russie, le prix de l'immobilier a tendance à grimper. Alors c'est vrai d'ailleurs qu'il y a beaucoup de maires qui aujourd'hui, le maire étant sollicité, se disent « oh, bon, on va pas se lancer ». C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de boulot quand même quand on est maire d'une commune.
Quelque peu, oui. Et puis ce qu'il y a, c'est, disons, l'État et puis tous les, bon, les préfectures et tous les services qui devraient nous aider ne font rien pour nous aider, entre guillemets.
C'est un peu compliqué alors pour vous. C'est vrai que avec l'administration.
C'est compliqué avec l'administration parce qu'ils se croient avec des entités qui ont 2005 ou 3000 habitants et qui ne sont pas tout à fait identiques à nos communes.
Bien sûr, avec 300 habitants, vous n'avez pas le personnel, vous n'avez pas tout ça. Mais alors, est-ce que vous êtes quand même le patron? Est-ce que le maire, quand même, je sais que dans une commune, le maire, il est connu, on s'adresse à lui. Alors, c'est vrai qu'avec l'intercommunalité, il y a beaucoup de choses maintenant qui dépendent de l'agglo.
Oui, il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'agglo. Bon, nous, on a... Par exemple, le service des eaux, c'est plus nous. On a quand même pas mal de choses qui ne sont plus à nous. Mais bon, on n'est plus le patron comme à une certaine époque. Quoi.
Mais pourtant, je vous interromps, Philippe Claude, pourtant on dit quand même que parmi toutes les fonctions, il y a des députés, il y a des sénateurs, des conseillers départementaux, le maire, c'est celui qui est le plus reconnu. Le maire, c'est quelque chose qui compte pour les habitants en général.
Oui, c'est sûr, c'est une personne qui compte parce que c'est la personne qu'on connaît le plus et puis c'est la personne auprès de qui on va demander les renseignements et auprès de qui on demande tout et on va dire n'importe quoi.
Ça peut arriver. Alors justement, j'ai envie de me demander qu'est-ce qu'on vous demande. Alors c'est vrai qu'on vous demande sans doute des renseignements personnels, des questions. Alors il y a des gens qui vous encouragent, puis il y a des gens qui rouspètent tout le temps. Ça arrive partout. Alors comment vous arrivez à vous arranger? Il faut quand même que vous soyez un peu diplomate d'une certaine façon.
Déjà, il faut savoir réagir, non pas disons dans la rapidité. Moi, ça c'est l'expérience qui parle. Au début, j'aurais été un peu soupaulé puis répondre de but en blanc. Mais maintenant, je prends du recul, je laisse un peu de temps et je réponds, calmement et sereinement.
Tranquillement.
Et tranquillement. Et surtout, je prends du recul. C'est-à-dire que si la personne m'appelle énervé, forcément, je ne vais pas la rappeler dans l'instant.
Oui, il faut que ça retombe un petit peu, quoi.
Disons que la tension retombe et après seulement, j'interviens.
Est-ce qu'il y a des projets dans les prochains mois, dans les prochaines années pour Haut-de-Russie? Est-ce que vous avez quelques projets en cours?
On a des projets. Par contre, moi, ce que je voulais parler, c'est surtout d'un projet qui a été mené uniquement, disons, par la commune et avec l'aide quand même un peu de la région. On a refait complètement notre église. C'est un sujet du jour puisque il y a pas mal d'églises qui sont quelquefois vendues ou quelquefois détruites. Et nous, on a eu la chance d'avoir un adjoint qui est donc du métier et qui est très motivé et puis qui avait dans ce but de refaire l'église. Et donc, on a refait ça uniquement avec les moyens de la mairie et puis je vous dis avec une participation quand même de la
région. Ça, c'est bien parce qu'il y a beaucoup d'églises qui ont tendance, c'est vrai que ça coûte cher à entretenir. Et si on ne tombe pas sur des gens motivés qui s'y connaissent et des passionnés, ça peut tomber vraiment en décrépitude.
Nous, si vous avez eu mieux, c'était la charpente qui était en train d'appuyer sur les murs et puis qui faisait que elle était en train de s'écrouler, quoi.
Une question un peu personnelle parce que le temps passe très vite. Vie familiale, vie professionnelle, quand on est maire, c'est pas facile de conjuguer quand même les deux. Il y en a qui disent « Oh là là, les journées n'ont que 24 heures ».
C'est très compliqué. Et bon, là, j'ai la chance d'avoir pu partir en cessation d'activité du fait d'un plan social parce que je travaillais chez PSA. Mais sinon, avant, quand je travaillais encore, c'était très très compliqué. Il fallait que je prenne parce que contrairement à ce qu'on croit, je ne suis pas fonctionnaire. Donc, tous les gens qui sont pas fonctionnaires n'ont pas le droit à des jours où il faut que ça soit motivé et on prend ça sur nos heures de vacances.
Sur vos loisirs, sur vos temps libres, c'est sûr.
Sur les temps de vacances. J'étais obligé de prendre des congés pour aller à certaines réunions.
On a envie de vous poser la dernière question qu'on pose à tous les maires. Êtes-vous un maire heureux, Philippe Claude, à Haut-de-Russie?
Oh ben, dans l'ensemble, oui, des tracasseries, mais bon.
Ils ont, tous les maires nous disent qu'ils en ont, hein. Ils sont tous tracassés par, il y a des individus qui les, il y en a même qui sont presque harcelés par des gens qui insistent. Mais globalement, ils sont quand même contents.
Bah, dans l'ensemble, oui, hein, de toute manière. Sinon, on ne.
Vous ne continueriez pas.
Voilà.
Eh bien, on vous remercie, Philippe Claude, d'avoir été avec nous. Rappelons que vous êtes le maire d'Audrécy, dans les Ardennes, à quelques kilomètres de Charleville-Mézières. Et on aura bien sûr l'occasion de vous retrouver. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Merci, ces rendez-vous sont pris. Merci évidemment pour la présentation de cette belle commune que l'on invite nos auditeurs à découvrir à 7 km de Charleville-Mézières. Et tout de suite, lorsque la pendule flirte avec 18h30, c'est l'heure du journal régional. Avec les titres de ce lundi 5 février, le journal d'Amélie Maillard vient d'être donné aux archives départementales des Ardennes. Zoom sur ce manuscrit exceptionnel de la Première Guerre mondiale. Les Stags se donnent de l'air en Ligue 2 grâce à une victoire 2-1 face aux Girondins de Bordeaux samedi. Un succès trouvé dans le temps additionnel.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Amélie Maillard, jeune femme habitant Faisseau, près de Rethel, dans les Ardennes, a tenu pendant toute la Première Guerre mondiale un journal dans lequel elle a consigné tous les événements qui interviennent dans la commune et les environs, les exactions commises par les Allemands, ce qui touche sa famille et fait part de ses espoirs, mais aussi de ses déceptions. Jackie Patoureau, mari de la descendante d'Amélie Maillard, vient de faire don du manuscrit aux Archives départementales des Ardennes, portrait d'Amélie Maillard avec Jean-Luc Guillaume, historien et vice-président de la Société d'histoire des Ardennes, qui a retranscrit le journal.
Amélie Maillard, c'est une jeune fille qui a 18 ans en 1914. Elle a sûrement conscience qu'un événement grave va se dérouler avec la déclaration de guerre et elle prend un livre de comptes qu'elle prend à la page 200 et quelques. Je pense qu'elle aura d'ailleurs arraché les pages suivantes après. L'auteur, c'est une jeune fille qui a probablement le certificat d'études ou ce niveau, mais qui écrit remarquablement bien. Elle a du talent pour l'écriture, c'est clair, et elle est objective en plus, c'est-à-dire que quand elle voit des choses désagréables, elle n'hésite pas à le dire, mais quand elle voit que les Allemands, quelquefois, se montrent avec humanité, elle le dit également. Elle arrête son journal fin août 1914, elle ne le reprend que 13 mois après, mais elle propose d'abord une petite synthèse des événements qui se sont déroulés pendant ces 13 mois et ensuite elle reprend les notes qu'elle avait tenues quotidiennement pendant toute la période. Et je dirais que ce qui est intéressant dans ce journal, c'est qu'elle est fille du maire désigné par les Allemands. L'intérêt, c'est qu'on a vraiment du vécu en quelque sorte, mais aussi quelquefois il y a des petites erreurs parce qu'elle retranscrit des choses qui se sont passées un petit peu avant le moment où elle le dit. Ou après d'ailleurs. Amélie n'est pas la seule de la famille à avoir tenu un journal. Elle a également une sœur. Il faut dire que c'était une famille de 8 filles. L'une de ses sœurs a tenu son journal pendant toute la période, j'imagine. Mais en tout cas, tout ce qu'on a pu récupérer, c'est ce qui s'est passé en 1916.
Des propos recueillis au micro de RCF France-Ardennes. La remise du manuscrit a eu lieu le 25 janvier dernier. Le témoignage complet de Jean-Luc Guillaume est à retrouver dans la rubrique Programme en écoutant les échos du Rethelois. Les soirs d'été, la basilique Saint-Remi s'illumine à l'extérieur avec Regalia, mais aussi à l'intérieur avec le Musique et Lumière proposé par l'association Renaissance de Saint-Remi. Et si jusqu'alors ce dernier était gratuit, le spectacle, dont la dernière version date de 2006, va désormais devenir payant avec une proposition modernisée décidée par la ville de Reims. Côté sport, il y a d'abord eu des exploits ce week-end. La victoire des Flammes Carolo vendredi soir 80-77 face aux leaders de Ligue féminine de basket, Basketland, et de cela, Charleville-Mézières se stabilise à la 7e place. Dans le même temps, en Pro B, le Champagne Basket a enchaîné une 4e victoire consécutive en s'imposant 99-87 sur le parquet d'Evreux après prolongation. L'Alliance champenoise remonte à la 11e place. Il y a aussi eu des résultats plutôt logiques, comme en volley avec le succès 3-7-0 de Chaumont sur Nice, une victoire qui permet permet aux Haut-Marnais de conserver la tête de la Ligue A avec 6 unités d'avance sur la deuxième, ou encore en football et plus particulièrement en Ligue 2 avec l'Estac qui a fait chuter les Girondins de Bordeaux samedi dans le temps additionnel. Après une première mi-temps équilibrée, les Troyens ont trouvé la faille en seconde période grâce au premier but de Simon Elissor, prêté cet hiver par le FC Metz.
On avait à cœur de prendre les 3 points, c'était primordial. Voilà, aujourd'hui c'est un grand match de l'équipe avec beaucoup de suspense. Je dirais que c'est une victoire au collectif. Je suis très content pour le staff, pour l'équipe. Celle-là elle fait du bien pour la tête, mais voilà, on sait qu'on a Saint-Etienne, on a Grenoble, et il va falloir y aller pour gagner.
Acclamé à son entrée en jeu, Renaud Ripart, qui faisait son retour au stade de l'Aube 9 mois après une grave blessure au tendon d'Achille, a donné la victoire à l'Estac dans les arrêts de jeu sur pénalty juste après l'égalisation des Bordelais sur un autre pénalty. Un grand moment pour l'attaquant troyen.
Forcément, c'est des bonnes sensations qui m'avaient manqué et j'espère qu'on en a encore de belles à vivre comme celle-ci. On joue au foot pour vivre ce genre d'émotion. Forcément, ça m'avait manqué. Donc voilà, c'est un petit moment sympa et j'en ai profité à fond. Je me sens bien, j'étais bien physiquement. En plus, c'est jamais évident de rentrer dans un match. J'ai deux, trois occasions. J'aurais pu même marquer un but supplémentaire. Mais bon, on a gagné, c'est l'essentiel. Après, on va essayer de, comme toujours, de donner le maximum, d'amener un truc supplémentaire à cette équipe, d'aider tout le monde. Et puis j'espère qu'on vivra une belle deuxième partie de saison.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. Score du match 2-1. Une victoire précieuse dans la course au maintien puisque les Stack se positionnent à la 15e place avec 27 points, avec 4 longueurs d'avance sur le premier relégable Annecy. Prochain match pour les Troyens le 12 février à Saint-Etienne. Et puis il y a aussi eu des frustrations ce week-end dans sport, notamment pour le Stade de Reims en Ligue 1. Rapidement mené 3-0 par Toulouse, les hommes de Will Steel ont fini par réagir. Trop tard, défaite 3-2 et une 7e place au classement. Place à la météo de demain, mardi, avec notre stagiaire à la rédaction, Mélissa Tavares. Quel temps, Mélissa, pour demain en Champagne-Ardenne?
Ce mardi, le temps sera monotone dans la totalité des départements de la Champagne-Ardenne. Le matin, le temps sera très nuageux, tel qu'à Charleville-Mézières, Épernay et Clairvaux. Seulement dans la Haute-Marne, à Langres, de la brume s'étendra sur toute la ville. Les températures seront plutôt fraîches, où les thermomètres afficheront au minimum 5 degrés et au maximum 8 degrés. Ce sera le même cas pour l'après-midi dans l'ensemble des départements, toujours en compagnie des nuages dans les villes de Sedan, Châlons-en-Champagne, Aix-en-Othe et Saint-Dizier. Les températures grimperont légèrement de quelques degrés où le mercure montera au maximum jusqu'à 11 degrés. Demain, nous fêterons les Gastons. Nous vous souhaitons une bonne fête à tous.
Merci Mélissa. Rendez-vous demain pour souhaiter une bonne fête à tous les Gastons donc et pour de nouvelles tendances météo. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Intéressons-nous désormais au passé religieux de Cézanne, commune située dans le sud-ouest marnais, et les 10 églises que possédait la petite cité de caractère en Champagne, avec Claude Schumer, passionné du patrimoine cézannais, au micro de notre correspondant Christian Lancio.
Claude Schumer, bien connu de nos auditrices et auditeurs, puisqu'il lui arrive souvent de faire également des interviews. Bonjour Claude.
Bonjour.
Bien entendu, on va se tutoyer. Toi qui es un vieux Cézannais, on peut le dire, qui est impliqué dans beaucoup d'associations, les Amis du Vieux Cézanne, le Rotary entre autres, tu vas nous parler du passé religieux de Cézanne.
Alors, pour parler du passé religieux de Cézanne, je pense qu'il faut remonter avant la Révolution. Et nous allons parler des différentes églises. À Cézanne, avant la Révolution, il y avait une dizaine d'églises ou chapelles dans Cézanne. La plus importante est bien sûr l'église Saint-Denis. L'église Saint-Denis, qui est l'église paroissiale. À l'origine, il y avait un couvent des moines, qui est la mairie actuelle. Et l'église des moines était l'église Saint-Julien. Étant donné qu'il n'y avait plus beaucoup de moines à Cézanne, et que la paroisse de Cézanne n'avait pas d'église dans Cézanne, il y en avait quelques-unes, mais à l'extérieur, les moines ont décidé d'abandonner la nef de leur église et de garder simplement le chœur et le transept, tout en se réservant quand même, on le verra plus tard, quelque chose d'assez curieux. Donc les Cézannais, dans l'église Saint-Denis, il n'y a qu'une nef principale et les bas-côtés, avec des chapelles, mais il n'y a pas, comme dans toutes les églises, un chœur et un transept. Le mur de l'église ou l'autel principale au milieu de la nef est installée. Derrière, c'est un mur garni de tableaux qui est assez joli à la naissance du Christ. Enfin, Noël, c'est très joli.
Bon alors Claude, c'est incroyable ce que tu me dis. Là, il y avait 10 églises.
Il y avait 10 églises à Cézanne. La plus importante était l'église Saint-Denis. La deuxième, l'église Notre-Dame, qui se trouvait avenue Jean Jaurès, un peu plus bas dans la même rue que le carrefour de la route de fer champenoise, sur la droite. Le couvent des Récollets, l'hôpital actuel. Le couvent des Cordeliers, en contrebas du mail du même nom, en face du presbytère. La Maison Dieu, l'ancien hôpital. Maintenant, c'est une banque et elle est située rue de l'ancien hôpital. La chapelle Crodon, près de l'usine d'optique. Il y avait également, près de la chapelle, un château. L'abbaye royale de femmes, alors ça c'est curieux, qui était installée au Bricot. Et du fait de l'insécurité des lieux, elle s'est installée à Cézanne. Et ensuite, ça a été repris par le centre fiscal rue des Récollets. Et la chapelle des Comtes de Champagne, près du prétoire, derrière l'école des maternelles.
Mais alors, ces 10 églises, alors, il n'en reste que deux, à ma connaissance. L'église Saint-Denis et puis la chapelle des Récollets de l'hôpital.
Exactement.
Comment elles ont disparu, alors, les autres, alors?
Elles ont disparu la plupart du temps, pour la plupart, à la Révolution. Elles ont été démolies pour récupérer les pierres, et les pierres ont été vendues et achetées par des particuliers. D'ailleurs, vous remarquez dans beaucoup de vieilles maisons du centre de Cézanne, des gros grès bien taillés, mais ce sont les pierres des églises de Cézanne, en grande partie.
Il n'y en a pas une partie qui a brûlé aussi lors de l'incendie, non?
Il y a eu un incendie terrible en 1632, où pratiquement Cézanne a brûlé, il ne restait que trois maisons. Mais toutes ces églises, pour la plupart qui étaient en pan de bois, elles ont été reconstruites aussitôt.
Bon Claude, je suis bon en mathématiques, moi j'en compte que neuf.
L'église Saint-Pierre qui se trouve derrière l'hôpital, au bout de la rue du même nom, sur la partie la plus haute, c'est-à-dire à la sortie de Cézanne actuellement. Ce dont on pourrait discuter aussi, c'est assez curieux et c'est propre à Cézanne, on retrouve ça à Chartres et dans certaines villes, les moines qui n'étaient pas bêtes et qui avaient cédé quand même
la nef
de leur église, ils s'étaient réservé l'emplacement entre les contreforts de l'église pour construire des ouvroirs. Et ils en ont fait construire 23. Alors c'était les entreprises qui construisaient, mais c'était les moines qui réceptionnaient les loyers. Et entre autres, il y avait des cordonniers, des notaires, des gens de droit. C'est assez curieux. Mais tout le tour de l'église était construit et ces petites maisons-là étaient une belle source de revenus pour les moines.
À l'occasion, je pense qu'on pourrait se revoir pour que tu nous parles particulièrement de la chapelle des Récollets, qui est quand même un haut lieu de Cézanne.
Oui.
Merci et à bientôt.
Merci Claude Schumer, merci Christian pour cette page Histoire dans le Cézannais.
Le 18-19 sur RCF.
On parle plus particulièrement de la communauté du Chemin Neuf ce soir avec Sœur Aude Roland, aussi responsable du foyer Saint-Sixte à Reims, et Thierry Mestralet qui sont tous les deux avec Jean-Pierre Benoît.
Sœur Aude, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Thierry Mestralet, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous, c'est l'occasion de vous écouter à propos du groupe de prière. Vous nous allez nous en parler. Alors, le groupe de prière dont nous allons parler, Sœur Aude, c'est où?
Alors c'est au foyer Saint-Sixte, au 16 rue du Barbâtre.
On imagine qu'il y a un rendez-vous régulier.
Donc tous les mardis soirs à 20h45.
À qui ça s'adresse Thierry Metzler?
Eh bien ça s'adresse à tous, hein, et c'est ça qui est bien au groupe de prière, c'est la diversité. Il y a des étudiants, des personnes plus âgées, des jeunes pros, des retraités, des paroissiens, des prêtres, des catholiques, des évangéliques. Voilà, c'est vraiment toute la variété de l'Église. Et donc on vient vraiment en plus quand on veut, il n'y a pas d'obligation bien entendu, certains sont là tous les mardis et d'autres viennent épisodiquement.
Alors on aimerait bien savoir comment se déroule un groupe de prière, qu'est-ce que l'on vit pendant un groupe de prière, Sœur Aude ?
Donc ce qui est au cœur vraiment du groupe de prière, c'est la louange. Dans nos vies qui vont vite, on a peu de temps pour s'arrêter, pour louer le Seigneur. Et donc c'est vraiment ce qu'on a envie de vivre dans un groupe de prière. Et c'est vrai que même dans nos prières, parfois, on ne prend pas l'habitude de louer. Et pourtant, la louange, c'est ce qui va nous aider à tourner notre regard vers le Seigneur, à lui redire qui il est pour moi. C'est vraiment important, le cœur dans une vie chrétienne.
Alors c'est vrai qu'il y a cette dimension de louange, mais que vit-on, Thierry Mestrallet, pendant un groupe de prière? Quel est l'essentiel selon vous?
Eh ben, dans un groupe de prière, en fait, notre prière, elle est communautaire. C'est vraiment une grâce, un cadeau de prière ensemble. Et cela peut nous aider chacun dans notre relation au Seigneur. Voilà, il y a certaines fois où la prière de mon frère peut me renouveler. Il y a des jours où je suis fatigué, où je traverse quelque chose de difficile. Et la prière des uns et des autres va m'aider à tourner mon regard vers le Seigneur.
Dimension de louange, dimension communautaire. Ce Rhodes, est-ce qu'il y a aussi une dimension à laquelle vous êtes particulièrement attaché?
Ouais, moi j'aime bien, c'est vrai, la fraternité aussi qui se tisse dans un groupe de prière. Prier ensemble, ça nous relie. Régulièrement aussi, pour prendre soin de cette fraternité entre nous, on a des tisanes, on partage un gâteau. Donc il y a aussi cette dimension conviviale. Et puis bien sûr, dans la prière, il y a aussi ces moments où, pendant le groupe de prière, on peut prier les uns pour les autres, confier peut-être un temps difficile ou une demande de grâce pour que le Seigneur puisse répondre à notre demande. Et la prière des uns pour les autres peut être importante.
En vous présentant tout à l'heure, ce rôle, on a dit communauté du chemin neuf, groupe de prière, mais aussi foyer Saint-Sixte. Donc c'est ce que vous vivez aussi dans le foyer Saint-Sixte, cette notion de fraternité. Mmh. Elle est importante, de convivialité. C'est au cœur même de la démarche du foyer Saint-Sixte. On peut en dire un petit mot en passant, puisqu'on s'arrête sur la fraternité.
Oui, exactement. C'est vraiment ce qu'on vit au foyer, ce quotidien partagé. Ça se vit autour des repas, autour de temps gratuits, de jeux ensemble. Et c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, de fait.
Thierry, tout à l'heure, vous aviez insisté sur la prière communautaire. Est-ce qu'il y a une autre dimension spécifique, particulière du groupe de prière qui vraiment caractérise la démarche?
Oui, en fait, dans le groupe de prière, on s'efforce de donner une place à l'Esprit Saint. C'est vraiment lui qui conduit ce temps de prière. On se met véritablement à son écoute. Donc c'est ça qui est un peu différent d'une messe ou d'un office. Par exemple, il n'y a pas de déroulé précis. On peut commencer par de la louange, qui nous met vraiment dans les dispositions pour accueillir cet Esprit Saint. Et puis ensuite, on va voir un peu comment le temps de prière se déroule, vraiment en fonction de ce que l'Esprit Saint peut nous suggérer. Voilà, donc on se laisse conduire. C'est en fait un temps d'une certaine liberté. Il n'y a rien de précis. On se met vraiment à l'écoute de la liberté de l'Esprit Saint dans la prière.
Parfois des chants quand même, pour donner une forme d'aspiration, pour créer un climat, pour créer une ambiance particulière.
Tout à fait. Le chant est important au début, pendant, voilà, c'est très important. Mais on peut aussi recevoir des paroles, la parole de Dieu. Donc on s'efforce bien sûr d'avoir sa Bible. Et puis voilà, l'un ou l'autre peut donner un texte que l'Esprit Saint va lui inspirer et qui va pouvoir nourrir notre prière.
Et c'est important que chacun reçoive cette parole intérieurement et puisse la faire partager d'une certaine façon aussi.
C'est cela. On la reçoit et on la partage au groupe. Elle peut vraiment nous parler de façon individuelle. Elle peut aussi, bien sûr, parler communautairement, mais elle peut parler individuellement. Et puis, il y a plusieurs paroles qui peuvent être données. Donc, voilà, que ça, de cette façon-là, beaucoup sont touchés.
Alors c'est vrai, on entend souvent dire que chacun a sa personnalité, chacun a sa manière de recevoir la parole de Dieu. Tout le monde n'est pas fait pareil, ce rôde. Donc il y a peut-être aussi une caractéristique que vous mettez souvent en évidence en fonction des personnalités de chacun. Et là, vous avez un terme un peu générique pour nous en parler, ce rôde.
Et c'est vrai que le Seigneur parle à chacun et il utilise des moyens différents peut-être pour rejoindre chacun. Donc Thierry a parlé de la parole de Dieu, comment le Seigneur peut nous donner une parole. Mais je crois aussi qu'il passe beaucoup par notre imagination, par nos sens. Et en fait, il faut y être attentif et c'est ce qu'on appelle les charismes, l'Esprit Saint qui vient parler à chacun et qui peut ainsi rejoindre tel ou tel. En partageant peut-être une image que je reçois de la part du Seigneur, ça peut rejoindre mon frère avec ce qu'il vit. Et voilà la manière dont je crois que le Seigneur peut nous montrer comment il est vivant et il s'intéresse à chacun des détails de notre vie ou des choses plus importantes.
Et dans ce groupe de prière, il y a forcément donc aussi des temps de silence
qui permettent aussi d'être davantage à l'écoute. Ça n'est pas un peu comme dans une émission radio où on parle sans cesse. Il faut aussi accepter des moments d'intériorité qui nécessitent quand même une forme de silence.
C'est sûr que c'est central. Donc il y a le chant, il y a tous ces moments où on va écouter la parole de Dieu. Mais le silence est au cœur parce que c'est ce moment qui nous permet d'intérioriser, d'écouter l'Esprit Saint.
Alors justement, on aura peut-être l'occasion de prolonger tout cela, mais ce Rhodes, est-ce qu'il y a par exemple des témoignages personnels dont vous pourriez éventuellement nous faire part aujourd'hui aux auditrices, aux auditeurs de RCF?
Moi, c'est vrai que j'ai découvert les groupes de prière, la louange, assez tard, finalement, dans ma vie de foi. C'est à peu près en même temps que j'ai découvert la communauté du Chemin Neuf. Et en fait, ça devient de plus en plus central pour moi. Chaque mardi, chaque semaine, c'est rare que je reparte d'un groupe de prière sans avoir reçu quelque chose du Seigneur d'important pour ma semaine. Donc voilà, c'est vraiment un Dieu vivant qui m'accompagne, qui me parle et qui vient m'aider à aussi exhorter mes frères à les rejoindre.
Thierry Mestrade, sur ce témoignage personnel, en deux mots.
Écoutez, très récemment, moi j'ai été rejoint par une image donnée par une personne et ça m'a apporté une grande consolation par rapport à une situation difficile que je vivais à ce moment-là. Et j'ai réellement senti qu'à travers cette image, Dieu venait me rejoindre dans cette situation.
Merci en tout cas à Sœur Aude et à Thierry de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Sœur Aude de la communauté du Chemin Neuf, Thierry également, Thierry Mestrallet. Et Sœur Aude est aussi responsable du foyer Saint-Sixte à Reims. Merci de nous avoir accompagnés.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci à tous les trois, Sœur Aude et Thierry Mestrallet en particulier pour ce témoignage.
À Reims, Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Pour terminer cette émission, à plusieurs endroits, les signes de la fin de la mobilisation se multiplient après l'appel des jeunes agriculteurs et de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles à lever les barrages. Quel retour sur la mobilisation des agriculteurs? On en parle aujourd'hui avec le député de la Marne, Charles de Courson, qui est en ligne avec Christopher Fausten.
Bonjour Charles de Courson.
Bonjour.
Vous êtes député centriste de la 5e circonscription de la Marne. Merci d'être avec nous en ligne aujourd'hui sur RCF. Après les annonces du Premier ministre jeudi dernier, la FDSEA de la Marne et les jeunes agriculteurs de la Marne, à l'instar du réseau FNSEA-JA, mettent en pause ces opérations sur le terrain. Le coût des mesures d'urgence évalué à 400 millions d'euros. Charles de Courson, vous avez rencontré les agriculteurs marnais, notamment lors de la grande journée de mobilisation le 26 janvier dernier. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement a entendu l'ensemble des agriculteurs?
Il faut rappeler que la FNSEA a commencé ce mouvement bien avant qu'il explose comme il a explosé, voyant le ras-le-bol et la non-réponse aux questions posées par l'agriculture française au gouvernement actuel. Quand ils avaient inversé les panneaux d'entrée de villes et de villages pour dire que franchement, on marche sur la tête. Voilà. Ça n'avait pas du tout été écouté par le gouvernement. Il a fallu qu'ils sortent. Autrefois, on disait les fourches. Eux, ils n'ont pas sorti les fourches, ils ont sorti les tracteurs. Et qui bloquent progressivement une partie du pays pour que, c'est bizarre, tout de suite, Attal a fait des premières mesures qui sont tombées à plat pour essayer d'éteindre l'incendie, puis de secondes annonces, et puis ça a duré, d'après ce que m'a raconté notre président départemental, M. Lapi, qui n'est autre que le secrétaire général de la FNSEA, ça a duré plusieurs heures pour se mettre d'accord sur un document qui a été publié le 1er février, qui est un document sur lequel il y a un peu de tout, à vrai dire, et qui a amené la FNSEA a demandé la suspension, et suspension provisoire, des manifestations dans l'attente de la mise en œuvre de tous les engagements qui ont été pris par le Premier ministre au nom de l'ensemble du gouvernement. Vous avez des décisions qui sont du domaine communautaire et donc le gouvernement peut dire on va saisir l'Union européenne pour essayer de faire avancer cela. Je vous donne un exemple qui concerne la jachère. Vous savez que dans la PAC, il y a une jachère quasiment obligatoire de 4% des superficies. On avait obtenu une suspension suite à l'affaire ukrainienne qui avait créé une pénurie et donc une explosion des prix. Et donc, l'Union européenne vient à l'initiative du gouvernement français, mais aussi du gouvernement allemand et d'autres gouvernements, de reconduire pour une deuxième année la suspension du 4% de gel. Oui. Mais ce n'est qu'une suspension pour une deuxième année. Ce n'est pas une renonciation définitive sur le gel. Je vous donne cet exemple-là, il y en a d'autres. Je vous en citer un qui est considérable, qui est le problème de l'inefficacité des lois Egalim 1, Egalim 2 et de la loi Descrozaille, des trois textes. Et je vous lis la décision du Premier ministre. Lancement d'une mission parlementaire sur l'évaluation et l'évolution des Egalim pour examiner notamment l'encadrement des centrales d'achat européennes. Et effectivement, puisque on a quatre grands groupes de la distribution des produits alimentaires qui ont délocalisé leur centrale d'achat, l'une en Belgique et l'autre en Espagne. Vous voyez bien que la loi française, elle ne s'applique pas. Donc, soit on a une régulation au niveau européen, et c'est un thème que je développe depuis des années, la décartélisation de la grande distribution en Europe, pour essayer de rétablir un fonctionnement normal du marché. Vous ne pouvez pas avoir un fonctionnement normal du marché quand, je prends l'exemple de la France, quatre groupes de distributeurs font à peu près 80% du marché au niveau national. Mais au niveau régional, c'est parfois beaucoup plus. Ça ne peut pas fonctionner, un marché. Il y a une disproportion, si vous voulez, entre la puissance des grandes surfaces qui font pression sur les industriels, qui font pression sur les agriculteurs et leurs coopératives. Vous voyez, on voit bien qu'il y a des questions qui sont du domaine européen. Il y en a d'autres qui sont du domaine national. Je suppose que toutes les décisions annoncées qui sont de nature nationale et qui relèvent de la loi seront prises dans le cadre de la loi d'orientation agricole. Et donc tout ça pour dire que l'ensemble des mesures qui ont été annoncées, elles s'étaleront bien entendu dans le temps.
Les agriculteurs attendent des actes concrets assez rapidement, même s'il faut bien sûr prendre son mal en patience, notamment sur ces réglementations qui sont liées par rapport à l'Europe que vous venez de le citer. Alors, Charles de Courson, vendredi dernier, à la Maison des agriculteurs à Reims, vous avez rencontré avec vos collègues parlementaires de la Marne les représentants de la FDSEA de la Marne pour faire le point sur les problématiques agricoles. Quel retour faites-vous sur cette rencontre départementale ?
Bah, si vous voulez, on a la chance d'avoir un président départemental qui est donc le secrétaire général de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Et c'est lui qui a piloté pendant 10 jours l'ensemble des manifestations. Donc, autant vous dire qu'il était au bout de ses forces. Et on a parlé de beaucoup de points dans les 4 pages de la version dite finale de l'accord qui a été passé avec le Premier ministre. Il n'a pas caché qu'ils jugeront le gouvernement au respect de ses engagements. Si ça n'est pas respecté, le mouvement peut reprendre.
Charles de Courson, avant de nous quitter, un dernier mot concernant l'église de Dronet, située dans le sud-est marnais, détruite par un incendie le 7 juillet dernier. Le 28 janvier, vous vous êtes rendu sur place avec le préfet de la Marne, Henri Prévost, la DRAC et les élus du territoire, afin de définir les opérations de suivi de l'église à Pont-de-Bois. Quelle est la suite du projet, Charles de Courson ?
On a pris toute une série de décisions en étroite liaison avec monsieur le maire de la commune de Dronet. C'est de lancer le recrutement d'un assistant à maîtrise d'ouvrage, à maîtrise d'œuvre, pardon, c'est-à-dire, disons, pour faire simple, un architecte, pour réfléchir et faire des propositions autour des positions du conseil municipal avant qu'il se décide. C'est une étude d'ailleurs de 100-150 000 euros pour vous donner des ordres de grandeur, qui sera financée à 50% par la DRAC. Voilà. Et une fois qu'on aura cet AMO et que cet AMO aura fait son travail pour voir quelles sont l'écoute des différentes hypothèses retenues par le conseil, les hypothèses retenues par le conseil, c'est 1. On refait le plus proche possible de l'ancienne église, c'est-à-dire on refait une église à Pont-de-Bois. Il y a une hypothèse H2, c'est qu'on fait quelque chose de neuf. Et puis il y a une hypothèse H3, un mélange des deux, quoi, pour faire simple. Vous voyez. Et donc, une fois qu'on aura cela, on passera à une nouvelle étude pour évaluer précisément cela avant que le conseil municipal ne tranche sur quel choix il retienne. Parce que, bien entendu, tout ça a un coût.
Bien sûr.
Alors, vous me direz, ça va durer combien de temps ? Bah, ils considèrent que la avant qu'on ne commence, si vous voulez, les travaux proprement dits, il faut compter pas loin de 2 ans, en allant vite.
On souhaite le meilleur, bien sûr, pour cette commune de Dronay, à tous ses habitants, afin de retrouver au plus vite cette église à pans de bois qu'on connaissait très très bien du côté de Dronay, dans le sud-est marnais. Merci Charles de Courson, député centriste de la 5e circonscription de la Marne, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. On se retrouve très bientôt sur RCF pour la suite de l'actualité. Et en attendant, très bonne semaine à vous.
Bonne semaine à tous.
Merci Charles de Courson et Christopher. Un mot sur la colère des agriculteurs. Les 2 premiers décrets sur le gazole non routier et la maladie hémorragique épizootique promis par le gouvernement ont été publiés hier au Journal officiel. Ainsi se referme ce magazine régional. Merci Mélissa d'avoir été avec nous jusqu'à 19h.
Merci à vous.
Et puis on se retrouve demain, mardi, 18h10. Vous l'avez compris, nous serons notamment avec Raphaël Blanchard, adjoint à la ville de Reims, délégué au sport et vice-président du département de la Marne en charge des sports. Ça, c'est pour un des invités du soir, mais il y en aura bien d'autres. Très bonne soirée en compagnie des programmes de RCF. Dans quelques instants, l'actualité nationale prend le relais.